vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est une pièce qui nous parle de la grande histoire, mais qui résonne de façon un peu plus contemporaine. Elle oscille d'ailleurs entre trois temporalités. Notre année 2021, le New York des années 80, dans l'Amérique de Ronald Reagan, et le Berlin du début des années 30, celle de la montée lente et inexorable du poison fascisme dans l'Allemagne de la République de Weimar, qui débouchera sur l'élection d'Adolf Hitler. Faire dialoguer ces trois époques, c'est aussi ce que permet le théâtre, et sa grande force, c'est de nous interroger, de poser des questions, de mettre le fer dans la plaie et de sonner l'alarme, de nous mettre en garde donc pour que l'histoire ne se répète pas. Voilà ce que l'on se dit en sortant de la salle Renaud Barreau du Théâtre du Rond-Point à Paris, après avoir vu ce spectacle qui mêle époques et comédiens dans une ambiance cabaret et dans laquelle s'invite le diable en personne. À la mise en scène, Catherine Marnas, qui dirige le TNBA, le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine, A Bright Room Cold Day de Tony Kushner est donc à l'affiche du Rond-Point jusqu'au 5 décembre et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Catherine Marnas.
Bonjour.
Et félicitations pour votre Légion d'honneur, hein, puisque vous l'avez reçue avant-hier, c'est tout récent.
C'est tout récent, j'en ai encore les stigmates, je suis un peu fatiguée parce qu'on a fait la fête.
Bon, bah merci d'être là, en tout cas c'est Josiane Orville qui vous l'a remise.
Si. Ma marraine de théâtre, j'allais dire, la bonne fée qui a veillé sur ma carrière, Josiane Orville, qui est venue me la remettre et qui a fait ça, comme toujours, formidablement.
Alors venons-en à la pièce. L'auteur, Tony Kushner, est d'abord connu pour une autre pièce, Angels in America, qu'Arnaud Desplechin d'ailleurs va monter début 2022 à la Comédie Française. C'est par ce texte, c'est par Angels in America que vous avez découvert Kushner ?
Oui, absolument. Je l'ai découvert avec la mise en scène de Warlikowski au Festival d'Avignon. J'ai pas la mémoire des dates, mais en tout cas, c'est là que j'ai découvert cet auteur-là et j'ai été absolument, fascinée par le côté hybride de Kushner. Bon, d'abord, je dois dire que la mise en scène de Warlikowski était formidable. Mais ce que j'ai aimé dans le texte, c'est que j'y voyais une sorte de monstre, c'est-à-dire l'hybride entre un théâtre engagé, comme peut l'être celui de Brecht, mais avec des personnages psychologiques, avec une biographie, avec une narration extrêmement importante, c'est-à-dire presque, j'allais dire, quelque chose qui se rapproche presque du scénario de cinéma. Et effectivement, c'est pas pour rien que Tony Kushner, indépendamment du Pulitzer qu'il a eu pour Angels in America, est aussi connu comme scénariste. Hein. Il va avoir une actualité, d'ailleurs, je pense, dans pas longtemps, puisque quand je l'ai côtoyé, il était en train d'écrire, il travaille beaucoup pour Spielberg, et il était en train d'écrire l'adaptation de West Side Story pour Spielberg.
Donc il va falloir effectivement qu'on suive ça. Merci beaucoup de l'information. Alors comment vous vous êtes emparé de cet autre texte, Bright Room Cold Day, qui est donc nettement moins connu quand même qu'Angels in America ?
Bah, qui n'est pas du tout connu. D'ailleurs, là, la forme que vous voyez là, elle est complètement inédite, puisque Tony Kushner l'a créé aux États-Unis en même temps que moi en France, et que ça a été une drôle d'histoire. Je racontais l'histoire, je cherchais une pièce qui parle de la dérive, c'est-à-dire de glissement progressif. C'est la fameuse histoire de la grenouille qui, si on la plonge dans l'eau froide et qu'on chauffe l'eau petit à petit, ne se rend pas compte qu'elle est en train d'être ébouillantée. Et je trouvais que, indépendamment de l'épouvantail de l'extrême droite et du fascisme qu'on pouvait agiter, il y avait quelque chose qui était un glissement progressif ou une habitude qui venait, une tolérance de plus en plus grande à des propos qu'on ne tolérait pas il y a seulement 10 ans. Et j'avais envie de parler de ça. Donc je cherchais une pièce qui parle de ce danger-là, où on ne se rend pas compte que petit à petit, on a glissé de 10 cm, de 20 cm, et qu'après on se dit « mince, on en est là ». J'ai été traumatisée par l'élection de Trump, traumatisée par l'élection de Bolsonaro, en disant « mais c'est pas possible que des gens comme ça se retrouvent au 21e siècle, mis au pouvoir par les urnes ». Et donc, j'ai cherché chez Brecht, évidemment.
Oui, on pensait à la résistible attention,
évidemment,
d'Arthur Howey.
Évidemment.
Dont on a déjà parlé, d'ailleurs, dans cette émission. Mais ce n'est pas le choix final que vous avez fait.
Si, je suis trop impressionnée par la mise en scène de Heiner Müller. C'est bête, hein, de raconter une chose comme ça, mais c'est une mise en scène que je n'ai pas vue en vrai, que j'ai vue très belle captation. 82. Et elle est indépassable pour moi. Donc, c'était oui. trop impressionnant.
D'accord.
Donc, je me
Donc
suis
il fallait
dit...
trouver autre chose.
Oui. Donc, je me suis dit, et qu'est-ce qu'il y aurait peut-être d'un tout petit peu plus contemporain que Brecht ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on peut poursuivre cette aventure-là ? Et j'ai pensé à Tony Kushner en me disant, mais finalement, il se revendique de Brecht. Donc, il a toujours eu une parole très engagée pour Angels in America. C'était sa colère par rapport au sida et par rapport à comment le sida avait été traité aux États-Unis, par Reagan, entre autres, et surtout. Et donc, je me suis mise à lire les traductions françaises de Tony Kushner. Rien ne correspondait à cette recherche-là. Et alors, j'ai cherché dans les sites américains et anglais, et je tombe sur le synopsis de la toute première pièce qu'a écrit Tony Kushner en 84-85. Et je lis le synopsis, montée du nazisme en Allemagne jusqu'à l'arrivée et au plébiscite d'Hitler. Et puis en parallèle, une jeune punk new-yorkaise qui, dans les années 85, prenait sa bombe pour bomber sur les murs Reagan égale Hitler. Weimar aussi avait une constitution. Et je lis que cette mise en scène a été un traumatisme. Cette première pièce pour Tony Kushner a été un tel traumatisme qu'il écrivait qu'il pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire de théâtre après, parce qu'on lui a reproché une inconséquence. On n'a pas le droit de comparer.
Alors justement, on va y venir dans un instant. Mais je voudrais qu'on commence en étant dans la salle du rond-point lorsque... J'allais dire lorsque le rideau s'ouvre, sauf qu'il n'y a pas de rideau au rond-point. Mais donc nous sommes à Berlin, quand débute la pièce, un soir de réveillon. Il y a un groupe d'amis qui est réuni dans un appartement. Ils font la fête, ils boivent pas mal. Ils chantent aussi. Alors on reconnaît au passage Just Gigolo. On chantait ça en Allemagne au début
absolument,
des années 30, Catherine
absolument,
Marnas.
Absolument, c'est pas du tout gratuit. C'est-à-dire que Just Gigolo a été écrit par un compositeur allemand en 1930 et qu'il a été un des premiers à être chassé par Hitler, enfin par le nazisme, et qu'il a fui le régime, donc, et que Brecht l'a utilisé dans un de ses films.
Donc la version qu'on entend...
La version qu'on entend en allemand, c'est la version originale.
Bien avant, donc, les versions américaines
absolument,
de Bing Crosby ou de Louis Prima.
Ça a traversé l'océan, mais bien après.
Voilà, bref, on fait la fête dans cet appartement, on est le soir du réveillon, l'atmosphère est détendue lorsque minuit sonne.
5, 4, 3, 2...
Relativement en sécurité. Hein, et cette phrase, évidemment, elle manque pas de sel et d'ironie quand on sait ce qui va se passer quelques semaines et quelques mois après.
Oui, on est à Berlin en 1932. Oui, je me sens relativement en sécurité.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'aveuglement, Catherine Marnas ? Parce que personne à ce moment-là n'imagine sérieusement l'avènement du nazisme. Mais si on se met à leur place, est-ce que c'est un aveuglement ? Est-ce que c'est une déconnexion par rapport à la réalité ? Parce que nous, aujourd'hui, on regarde cette époque-là avec les yeux d'aujourd'hui.
C'est pas du tout un aveuglement. Et je pense que c'est ça qui est très fort dans la pièce de Tony Kushner. Ils sont pas fous. Elle le dit, hein, le personnage, j'allais dire, qui est peut-être le plus représentatif de nos hésitations ou de nos lâchetés, je sais pas comment on peut le dire, c'est Agnès.
C'est l'hôtesse. Hein, c'est celle
l'hôtesse,
qui accueille tout le monde le soir de ce réveillon.
Absolument.
Qui est jouée par Julie Papin.
Et elle le dit. Elle dit, je suis pas idiote. Je sais que ce qui va arriver est mal. Mais ça sera... On y survivra. Et puis, ça ne durera pas éternellement. Et elle dit, ce qui est important pour moi, c'est de rester dans mon appartement et de conserver mon bail. Ça peut paraître mesquin, mais c'est simplement, de manière métaphorique, le renoncement qu'on peut avoir par rapport à un confort, par rapport à une sécurité, et de se dire, on est prêt à risquer quoi pour défendre nos idées, pour défendre la démocratie ? On ne sait pas.
Mais en 1932, puisque donc nous sommes à ce moment-là, de la pièce, au début de la pièce, en 1932, ces intellectuels, puisque ce sont des intellectuels, hein, des comédiens, des membres de la gauche intellectuelle, notamment du KPD, le parti communiste allemand, qui sont réunis ensemble pour ce réveillon, ils ne le sentent pas arriver. Tout ça. Est-ce que c'est justement aussi pour vous une pièce sur la déconnexion que l'on entend très souvent, encore aujourd'hui dénoncée, entre les milieux intellectuels et artistiques et ce que l'on a coutume d'appeler le peuple ?
Ah, c'est marrant parce que je ne l'ai pas vu comme ça. Je n'ai pas vu leur déconnexion. J'ai simplement ce que j'ai trouvé qui était formidable, c'est que quand on parle des montées du nazisme, des populismes, etc., c'est toujours le peuple, c'est toujours les autres. C'est-à-dire, c'est le peuple a tort parce qu'il n'est pas éduqué, le peuple a tort parce qu'il n'a pas vu venir. Là, ce sont des gens extrêmement politisés, extrêmement éduqués. Donc, on peut dire aussi nos spectateurs. Mmh. Et que malgré tout, ils n'agissent pas. Et pour des différentes raisons. Donc, j'allais dire, c'est moins l'aveuglement de ces gens-là que simplement de se dire, regardons-nous, nous aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait et comment on réagirait ? Et quand vous dites, ils auraient dû le voir venir...
Non, je n'ai pas dit, ils auraient dû.
Pardon,
mais on peut se demander, on peut se demander.
Excusez-moi.
Mais parce que je vous dis, on regarde ça évidemment avec les yeux d'aujourd'hui.
Avec les yeux d'aujourd'hui, sauf que quand on regarde avec, a posteriori... Par exemple, il y a un moment qui est très drôle, c'est que quand l'auteur, le personnage qui joue l'auteur, annonce au personnage qui est en 85 et qui ne sait pas que Trump a été élu, que Trump a été président des États-Unis... Elle n'y croit pas. C'est pas possible. Pas un clown comme ça. Pas un clown comme Bolsonaro qui peut dire des choses horribles. Sauf qu'on se dit toujours avant, mais c'est des clowns, ça va jamais passer. Rappelez-vous, avant l'élection de Trump, c'était pas possible. Mmh. On se disait, c'est une caricature. Et ils disent la même chose de Hitler.
Alors justement, c'est vrai que la pièce aussi est entre trois temporalités différentes, donc Berlin dans les années 30, New York en 85 avec un personnage féminin qui s'appelle Zila, qui est incarné par Sophie Richelieu, et dans une époque contemporaine avec un personnage masculin qui s'appelle Xila, donc c'est presque le même nom, incarné par Gurshad Shaiman, et qui nous parle entre autres justement de Donald Trump. Est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer qui est Xila ? C'est l'épigone, en fait, de l'auteur, de Tony Kushner.
Oui, et c'est là où, quand je commençais à vous raconter l'histoire de la mise en scène, quand j'ai demandé les droits à Tony Kushner, j'ai demandé les droits pour la première pièce, c'est-à-dire celle où il y avait Xila et l'Allemagne. Et au même moment où je demande les droits, Tony Kushner me dit « Mais moi, je suis en train de réécrire la pièce parce que je veux absolument rajouter une troisième couche de temps qui est aujourd'hui et qui est Donald Trump. » Donc tout ça s'est fait dans une temporalité à la fois magnifique et périlleuse.
C'est-à-dire et donc vous avez échangé en permanence de part et d'autre de l'Atlantique pour construire la même pièce, mais sur deux sites différents.
Voilà. Et puis j'ai fini par le rejoindre à New York parce que c'était très compliqué.
Oui.
Pour qu'on arrive à se mettre d'accord, j'ai assisté à ses répétitions. Et c'est cette dernière, cette strate-là, c'est-à-dire qu'il a voulu ajouter à cette mise en abîme qu'il y avait déjà, en tout cas, ces deux temporalités, il a voulu, lui, être présent sur le plateau. Enfin, pas lui en personne, mais en tout cas,
à travers
sa
un
parole.
Personnage qui regarde les autres personnages qu'il a lui-même créés pour les besoins de sa pièce.
Et qui peut aussi s'autocritiquer, hein, qui peut dire, mais j'ai écrit ça en 86, mais par exemple, sur la gauche, les rêves de la gauche sont toujours beaux. Comment j'ai pu écrire ça ? Je pense que je pourrais plus le dire aujourd'hui. Donc, il se juge avec la distance du temps et en même temps, il vient nous dire une chose très importante, c'est presque pour lui une réhabilitation, c'est-à-dire en disant « j'ai failli arrêter le théâtre parce qu'on m'a reproché mon excès et mon inconséquence quand je disais Reagan égale Hitler, mais j'ai vu avant tout le monde, et j'avais raison, que la destruction des droits civiques, que la destruction des syndicats, etc., qu'effectuait Reagan, suivait exactement le même parcours que l'ascension de Hitler, c'est la même chronologie et que c'est ça qui amène le fascisme.
Oui, ce qui ne veut pas forcément dire que Reagan égale Hitler, parce que y a quand
bien
même
sûr que non.
Le nombre de morts n'est pas tout à fait équivalent, on est bien d'accord.
Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais justement, c'est de ça dont il a envie de se justifier, de dire c'est une punk qui écrit ça sur les murs, dans sa colère, et qu'effectivement, on ne peut pas comparer, il le dit, hein, mais que par contre, il faut faire attention que le fait de ne pas pouvoir comparer ne nous amène pas à une consolation, en disant, bah, puisque c'est pas comparable, c'est que tout ne va pas si mal.
Alors, on va entendre justement deux extraits de la pièce. D'abord, extrait d'un dialogue entre Zila et Xila.
Parce que je me sens mal, parce que ce qui se passe dehors est vraiment très grave, parce que... Ah oui, toi, tu ne peux pas le savoir, parce que tu es bloqué en 1985, mais ici, nous, nous sommes en 2021, et il y a encore très peu de temps, Donald Trump était président des États-Unis.
Attends une seconde, quoi ? Le clown du Queens avec l'avion plaqué or ?
Oui, il a été élu président.
Et tous ces hôtels casinos en faillite dans le New Jersey ?
Oui.
Et le...
Oui,
le
cheveux, là.
Le toupet en fil dentaire dégueulasse et la gueule plaquée or ?
Oui, comme le cul d'un orang-outan avec le sphincter anal de l'orang-outan qui lui sert de bouche.
Et son trouble de la personnalité narcissique et ses procès dans le Queens ?
Oui, les petits yeux porcins et bouffis comme ceux d'un cadavre.
Oui, et c'est quoi son nom déjà ? Sa femme, trophée, tchèque.
Non, sa femme maintenant, elle est slovène.
Ce mec... Président ?
Oui.
Non, no way.
Si, il était président, demande-le.
Non, mais tu rigoles.
Non. Très peu pour qu'il ne le soit pas encore ce soir, et s'il ne l'est plus, j'ai bien peur que cette pièce n'y soit foutrement pour rien.
C'est tout dernier mot, Catherine Bernas, que prononce donc l'auteur, hein, sur, enfin, le comédien qui incarne l'auteur sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Il pose quand même la question de la force du théâtre, de sa capacité à influer sur la vie, sur le cours de la société. Est-ce que vous pensez que le théâtre est un bon lanceur d'alerte ?
Ah là là ! Est-ce que je peux répondre de façon aussi normande que Tony Kushner, c'est-à-dire... c'est ce qu'on sait faire et de toute façon, il faut le faire. Je ne suis pas sûre que ça soit... De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas suffisant.
Oui, mais si vous ne le faites pas, vous pourriez vous le reprocher toute votre vie. C'est
ah
ça
oui.
que vous voulez dire ?
Ah bah oui, j'aurais l'impression de... d'une lâcheté de ne pas avoir agi à l'endroit où je pouvais agir. Comme il dit, hein, je sais faire ça, donc je le dis à l'endroit où je suis.
Mais souvent, d'ailleurs, vous cassez hein, le quatrième mur, comme on dit, c'est-à-dire que chacun des comédiens, successivement, quitte le fond de scène, s'approche très très près des spectateurs, des premiers rangs, et s'adresse directement à la salle. Il regarde presque les yeux dans les yeux, c'est à voir, la lumière s'allume, enfin on a vraiment cet échange permanent, hein, c'est vraiment votre souci, pas premier, mais un souci très important.
Oui, très important. Et c'est d'ailleurs en cela, c'est quelque chose qui est un vrai engagement parce que j'allais dire, on est plein de bon goût, on est plein de dictates, on a des codes dans le monde du théâtre. Et il y a souvent comme ça une sorte de réserve par rapport à un théâtre un peu direct ou qui soulève les problèmes un peu directement en disant il vaut mieux passer par une métaphore plus subtile, il vaut mieux passer par Ricochet. Là, je suis consciente qu'il y a des choses qui peuvent hérisser le poil. Hein.
Oui.
Absolument. Et je l'assume. C'est mon engagement.
Voilà. Alors justement, par exemple, on a entendu l'extrait, là, les mots sur Trump, ils sont quand même très forts, très crus. On s'en prend quand même dans le texte à son physique. On compare sa bouche à un cul de singe. Alors évidemment, dans un théâtre parisien, et comme le théâtre du Rond-Point, les rieurs sont souvent du côté des personnages. Trump, il n'est pas hyper populaire parmi les gens qui vont au théâtre à Paris. Mais pourquoi s'attaquer au physique ? Alors vous allez me dire, c'est pas vous qui avez écrit le texte. Mais pourquoi s'attaquer au physique quand il y a tant d'autres choses qu'on peut dénoncer si on est contre Donald Trump ?
Parce que je pense que dans la comparaison qu'il fait entre Reagan, Trump et Hitler, il y a cette chose qui est quand même assez étonnante, qui est pourquoi notre fascination, la fascination de la masse, hein, pour des gens qui sont aussi caricaturaux, Pourquoi notre fascination, entre autres, pour les mauvais acteurs, comme il le dit, pour les artistes ratés?
Ouais, il rappelle que Reagan était un acteur de série B
à
Hollywood qui se roulait dans la poussière et qui était très loin peut-être de la façon d'incarner le président américain lorsqu'il a été élu.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le fait de se dire que Hitler, quand on l'entend aujourd'hui, on se dit que ce n'est pas possible, quelqu'un qui éructait comme ça, qui aboyait, qui n'arrête pas de dire au monde entier que la race aryenne est la race qui doit dominer le monde, c'est-à-dire qu'il faut être grand, blond, avec les yeux bleus, et que lui aboie du haut de son maître, je ne sais pas quoi, en étant très brun, et avec les yeux marrons. On se dit, attends, c'est pas possible, c'est une caricature, ça n'est pas crédible. L'idée de la crédibilité me semble importante. Quand on parle de Trump, et c'est pour ça que ça peut vous sembler très violent, ça l'est, hein, la description de Trump est très violente, mais Trump lui-même met en scène sa caricature. Vous n'allez pas me dire, quand on voit les manteaux de Trump, ils sont magnifiquement coupés. C'est un tissu absolument génial. Ça tombe génialement bien. Donc ça veut dire que ce monsieur sait ce que c'est que le bon goût et il a l'argent pour ça. La coiffure de Trump, c'est une mise en scène. C'est lui qui se met en scène comme ça. C'est lui qui se fait remarquer. Ça fait mule en Angleterre après.
Pensez à Boris Johnson, évidemment.
Bah évidemment, vous avez vu la parenté de coiffure, quand même. Cette espèce de toupet en fil dentaire, comme dit, comme dit l'auteur. Ça ne peut pas être un hasard.
Nouvel extrait.
Bonjour, je m'appelle Adam Hitler. Merci de m'avoir invité parmi vous en cette magnifique matinée de mai. J'adore le jazz, j'adore la musique de danse des peuples afro-sombres, la musique de mariage chic, j'adore.
Reagan est président et il efface l'histoire. Il remplace l'histoire par des mythes d'aubes nouvelles, des mythes derrière lesquels des rêves de pureté et du sang, de pureté raciale, de genre et de sexe. Se donne à peine le mal de se dissimuler. On est en 1985 et quelque chose va très très mal.
Regardez-moi voler dans mon aéroplane. Je vous aime pas. Mais arrêtez de me lancer des choses, de me tirer dessus. Je suis le sauveur de l'Allemagne. Je suis votre sauveur, l'ombre d'une nation nouvelle. Ça fait mal.
Alors je descends dans la rue à 3h du matin avec ma bombe aérosol.
Évoqué tout à l'heure ce fameux signe égal entre Reagan et Hitler qui fait évidemment beaucoup, beaucoup réagir dans la salle. Catherine Marnès, c'est donc Sophie Richelieu hein, qui interprète, on est à la fois dans l'incarnation et dans l'interprétation d'ailleurs, hein, le personnage de Zilla, donc cette punk d'East Village, donc dans les années 80, donc dans ces années Reagan. C'est elle qui est une sorte de fil rouge en fait dans le spectacle, parce qu'elle est extérieure à la situation de ces intellectuels de gauche berlinois qu'on évoquait tout à l'heure. Et c'est elle qui fait le lien, finalement, entre les différentes époques, hein, les années 30 à Berlin, 85 aux États-Unis, et puis notre époque contemporaine en 2021. Et puis, elle introduit aussi la dimension cabaret. C'est le personnage central pour vous, que ce personnage de Zilla?
Je ne sais pas si on peut dire central, parce qu'il y a plusieurs centres. Il y a le centre de l'appartement dont on a parlé juste auparavant, avec le personnage de Agnès, qui est la locataire de l'appartement et qui héberge, on a l'impression qu'il squatte un peu chez elle, tous ses copains. Donc elle est un centre, et elle est le centre, comme je le disais, de notre inertie ou peut-être de notre cécité. Et puis Zilla est un autre centre, ce serait presque comme le metteur en scène, si on veut bien le dire. comme
donc
ça.
Donc on a l'auteur et le metteur en scène
sur la scène du théâtre. Sur le plateau.
Voilà. Et c'est vrai qu'elle fait le lien, je le disais, entre les différentes époques. Elle lance par exemple les projections de photos qui sont derrière la scène. Il y a un immense écran vertical sur lesquels donc, il y a des photos d'époque de Berlin, alors qu'elle, elle nous parle encore une fois des États-Unis. Et puis il y a la musique, donc elle chante. Il y a des moments chantés absolument magnifiques. Musique en live.
Oui, je pense que c'est important de le dire par rapport aux acteurs, parce que ce sont de jeunes acteurs et que je les trouve formidables. Donc, je pense que c'est bien de leur rendre hommage. Et c'est eux qui jouent la musique en direct, c'est eux qui chantent en direct. Donc, tout ça est parti au départ d'une sorte de parallèle que Tony Kushner faisait avec le film Cabaret. Il en avait parlé dans une de ses versions, puisqu'il y a eu...
Oui, Cabaret a nourri l'écriture de la pièce originale.
Absolument. Et il savait, il le dit de façon très très autobiographique et réelle, qu'avant même d'écrire la pièce, il voulait qu'il y ait Memories of You, la chanson Memories of You, à cause de mots qu'il trouve très très beaux, c'est A Rosary of Tears. Donc, au départ, je me suis dit, ah bah tiens, il y a cette chanson, il faut respecter le désir de Tony, même avant que je sache que ça se serait développé. Et Sophie chante magnifiquement, comme vous l'avez entendu. Donc, on a développé à partir de ça, et je me suis dit, c'est bien qu'il y ait de la vraie musique en direct, c'est-à-dire que les choses soient portées comme ça, à chaud, à tant qu'à faire d'avoir l'auteur et le metteur en scène sur le plateau, qu'on ait aussi les acteurs qui puissent être des musiciens en direct. Right. Turning into snow. You put on your robe and disappear into new reality. Thought I memory stay by.
Dans VMDN sur RFI. Catherine Marnas est avec nous. Elle met en scène au Théâtre du Rond-Point à Paris, Bright Room Cold Day, pièce réactualisée de l'auteur américain Tony Kushner dans une traduction de Daniel Loaiza. Le titre de la pièce lui-même, il n'est pas évident à traduire, voire à comprendre, Catherine Marnas. Une chambre claire nommée jour, c'est comme ça qu'on peut traduire. Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, je pense que c'est pour ça, vous dites, c'est pas facile à traduire. Je pense que c'est pour ça que j'ai gardé les deux, c'est-à-dire voilà. Le titre en anglais pour que les gens puissent se dire. Parce que la polysémie de room, par exemple, hein, une chambre à soi, Virginia Woolf, mais c'est aussi un appartement, c'est aussi une pièce. Et bright, qui peut être à la fois lumineux, mais confortable, enfin, nommé jour. Ça, c'était comme une sorte de clin d'œil à un tramway nommé désir. Donc, ce qui met beaucoup de temps à expliquer dans la pièce, effectivement, pourquoi il a appelé ça comme ça. Et en fait, il ne l'explique jamais vraiment.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il dit, bah voilà, c'est parce que j'arrivais pas à trouver le titre. Donc, je suis allée voir une exposition de Cécile B. 2000. Et puis là, j'ai vu le vêtement de Charlton Heston. Et c'est là où il se met à développer tout un truc sur les acteurs. Et finalement, on comprend pas bien pourquoi. Par contre, ce qu'on comprend, là, très très clairement, c'est que ce refuge tellement formidable pour tous ses copains, est tellement chaleureux, devient petit à petit de plus en plus glacé et oui. de plus en plus sombre.
Alors c'est important effectivement le décor hein, de cet appartement dont Agnès est donc la propriétaire, Agnès qui est jouée par Julie Papin. Le décor est signé Carlos Calvo, vous le connaissez bien Catherine Marnas. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui? Qu'est-ce que vous lui avez demandé pour figurer justement sur scène cet appartement?
Carlos Calvo, donc, qui travaille avec moi depuis un bon moment, est beaucoup plus abstrait que moi en général. C'est-à-dire que quand j'ai des premières idées de scénographie, elles sont, j'allais dire, un peu bêtement illustratives. C'est juste comme ça des idées que je propose. Et lui, il est toujours beaucoup plus abstrait. Mais là, on est tombé d'accord sur l'idée du feuilletage indispensable qu'il y avait par rapport à ces temporalités. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce cocon, mais qui, en même temps, qui est un cocon ouvert à tous les vents. C'est-à-dire, c'est une boîte. Dans la boîte du théâtre, il y a une boîte qui est l'appartement de Berlin en 32-33. Mais en même temps, vous avez vu, c'est une boîte qui est traversée de tous les vents et de toutes les... C'est une boîte fragile. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à la deuxième partie, il n'y a plus les rideaux,
oui.
qui était une petite sécurité par rapport au dehors. Et en fait, dès qu'il y a l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire dès qu'il y a l'arrivée de la grande déferlante, puisque c'est là que ça commence, c'est là que s'achève la démocratie en Allemagne, comme le dit l'auteur, il n'y a plus de rideaux. C'est-à-dire que là, elle est ouverte à tous les vents. Donc il y a ce cocon fragile et de plus en plus fragile, et puis autour, eh bien, les autres époques.
Et c'est dans ce salon, donc chez Agnès, que se croisent les différents personnages de la pièce et que petit à petit, chacun prend conscience du drame qui est en train de se jouer dans ce Berlin des années 30. Alors, on ne va pas tous les citer, car il y en a beaucoup. Il y a par exemple Paulinka, une jeune comédienne ambitieuse qui a l'air un peu superficielle, hein, qui est jouée par Annabelle Garcia. Il y a Annabella, jouée par Agnès Pontier, qui est une portraitiste qui a mis son talent artistique au service du Parti communiste. Il y a Ouche, incarnée par Simon Delgrange. Alors, Ouche, c'est un cinéaste, il est d'origine hongroise, il est parti en exil en Allemagne, il a perdu un œil, donc il a un bandeau. Hein,
et c'est donc un supporteur de Trotsky.
Voilà, supporteur de Trotsky. Alors ça, c'est pas complètement innocent, c'est même très important dans la pièce, parce qu'il y a aussi les divisions hein, au sein de la gauche, au sein du camp socialiste au sens large. Ça n'aide pas non plus à s'unir face au péril qui monte.
J'allais presque dire que c'est essentiel. On parlait de cécité, ou on parlait de ne pas avoir entendu, ou de ne pas avoir vu. Mais quand même, il y a quelque chose qui est très très fort dans la pièce, très fort. Et qui, je crois, dit avec insistance, là, pour le coup, avec Tony Kushner, c'est que Hitler est passé bêtement, serait, d'où le titre de Brecht, la résistible ascension d'Arthur Louis. Ça aurait pu être empêché. Qu'est-ce qui a fait qu'il a été élu? C'est que les communistes n'ont pas voulu s'allier avec les socialistes, en disant les socialistes, c'est des bourgeois. Et c'est cette division-là qui a permis l'ascension de Hitler. Donc, pas besoin de faire un dessin.
Il y a aussi un anarchiste homosexuel qui travaille pour l'Institut d'études de la sexualité humaine, qui est joué par Yassine Sif al-Islam. Anarchiste, stalinisme, trotskiste, donc effectivement des tendances qui ne font pas toujours bon ménage. Est-ce que le rêve révolutionnaire est très différent d'une caste à l'autre, je veux dire d'une secte à l'autre, Catherine Marnas? Ils concourent au même but?
Oui, mais avec, encore une fois, c'est-à-dire en se divisant sur finalement des choses qui sont pas essentielles. Quand par exemple, Götzling dit « rejoins le parti » au personnage qui est donc dans cet institut de sexualité humaine, qui est encore une fois une chose historiquement tout à fait vraie. Tony Kushner est vraiment très scrupuleux avec l'histoire. Ça a été un des instituts, une des premières victimes des Allemands. Il lui dit « je peux pas ». Elle lui dit pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que je mette du mascara. Dans une pirouette, c'est une pirouette d'auteur, on va dire. Mais
ça révèle
des choses. C'est-à-dire de se dire, pour des micro-histoires, les choses ne se sont pas faites. Je crois que c'est peut-être là-dedans quand vous parliez de l'utilité ou pas du théâtre. Alors encore une fois, c'est une question brûlante, c'est une question qu'on peut se poser tout le temps, tout le temps. On peut rien tout seul, mais si quand même on entend ça, c'est-à-dire de se dire, écoutez, arrêtons de nous disputer sur des micro-détails et comment est-ce qu'on repose les questions par rapport à l'essentiel pour savoir qu'est-ce qui est important dans nos vies et qu'est-ce qu'il est important de défendre, ce serait déjà pas mal. Hein.
Alors, le personnage qui est central dans la pièce, au sens où c'est lui qui traverse l'ensemble de la narration, c'est Agnès. Hein, donc, c'est elle qui reçoit dans cet appartement de Berlin. Agnès, elle cauchemarde. Elle rêve d'une femme, une femme bien plus âgée qu'elle, qui s'invite dans ses nuits, mais aussi physiquement dans l'appartement berlinois et sur la scène du théâtre du Rond-Point, dans votre mise en scène en tout cas. C'est une femme mystérieuse et fantomatique qui parle. Et également, elle parle par la bouche de Bénédicte Simon.
Je me souviens du jour, un ciel si clair que sous sa voûte, toute pensée est engloutie. L'innocence, l'été, mais le soleil, un abricot glacé de lumière, une brume dense et brillante, un jour immense. La guerre était déclarée, laquelle, je ne m'en souviens pas. Nous portions des corsets en ce temps-là, rigides. Munis de baleines, ils pinçaient, et souvent, jusqu'au bleu, jusqu'au sang. Mais c'était un temps merveilleux. Ah ! J'entendais les drapeaux qui claquaient dans le vent. Les hommes défilaient, passaient. Ce jour-là, quelque chose de chaud remuait en moi. Remontait contre les côtes de mon corset. C'était mon cœur, je m'en souviens. Un temps merveilleux. Bah, maintenant, affamé, toujours, jamais, assez.
Alors, qui est-elle, cette vieille femme au visage si impassible, parfois même un peu cadavérique, et au ton qui parfois est très calme et qui parfois ne l'est pas du tout, Catherine Marnas.
Tony Kushner aime beaucoup mélanger dans ses pièces. C'est le cas par exemple dans Angels America, où on a des anges qui défoncent le plafond pour venir parler aux personnages tout à fait concrets et réels, réalistes en tout cas. De la même manière, là, il écrit une sorte de fantôme qui... Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est une voisine ? Mais il y a quand même plein d'indices de quelque chose de très, très bizarre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne donne pas des réponses complètement tranchées, mais il nous donne des indices quand même. Et les indices, c'est qu'à un moment, elle s'approche d'Agnès et elle lui dit « Tout ce qui nous sépare, c'est le temps. » Et vraisemblablement... Agnès est prise en sandwich entre deux fantômes, un fantôme du futur qui est Zila et qui lui dit « Moi, je suis des années après, donc je peux te parler de ce que j'ai vécu. Malheureusement, tu ne peux pas m'entendre. » Et un fantôme du passé qui, bizarrement, serait une Agnès vieillie, c'est-à-dire après tous ses renoncements, qui reviendrait des camps et qui dirait « Moi, j'y suis pour rien. J'ai... » Moi, de toute façon, il faut que je mange. Et j'ai mangé dans n'importe quelle circonstance. Et quand ils ont ouvert les camps, j'ai dit, moi, j'y étais pas. Moi, j'ai pas appuyé sur la gâchette. Moi, j'ai rien fait.
I know there is hope
Easy on me, Adèle, dans VMDN sur RFI, avec Catherine Marnas qui met en scène Tony Kushner et sa pièce A Bright Room Cold Day jusqu'au 5 décembre au Théâtre du Rond-Point à Paris. On le disait, l'essentiel de l'action se déroule dans un appartement berlinois assez cosy avec cette bande d'amis engagés très à gauche, communistes, trotskistes et anarchistes. Et dans cet appartement, un autre personnage étrange va faire son apparition et il va faire une entrée très cinématographique.
C'est bon la musique ?
Oui.
Aux lumières ?
Oui.
Le diable ?
C'est bon.
Alors, lumière, moteur et action.
Même la musique est très cinéma, il entre sur le plateau, le diable, il s'avance du fond de la scène, il sort du noir pour arriver en pleine lumière et il va se lancer dans un dialogue dans un premier temps et ensuite dans un monologue aussi assez long, entrecoupé de bruit que je laisse les spectateurs découvrir. Et il va nous expliquer, Catherine Marnas, comment depuis des siècles il instille le mal sournoisement mais en continu. Dans la société, en fait, on est dans une sorte de métaphysique du diable.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que j'allais dire que Kushner le fait de manière, alors là pour le coup, très théâtrale, très spectaculaire.
Comme c'est le moins qu'on puisse dire.
Comme vous le dites. Mais en même temps, c'est une métaphore magnifique, puisque effectivement, tout ce qui a trait à Hitler et ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est le mal avec un grand M. Donc qu'est-ce que c'est que ce mal avec un grand M, qui est interrogé déjà dans la première partie, pas plutôt par Paulinka, sur cette idée de qu'est-ce que c'est que le mal, est-ce que c'est le diable. Bon, tout ça relié avec Faust.
Bien sûr,
évidemment,
on a un peu l'impression d'un pacte faustien, effectivement,
évidemment,
sur la scène.
Évidemment, par contre, ce qui est très, très, je trouve très beau dans ce que fait Tony Kushner, c'est qu'il invente une biographie au diable et qu'il raconte son histoire dans le temps. D'une créature un peu primitive, il le dit d'ailleurs, agraire, proche des tas de fumier, dieu de la merde, comme il le dit. Et comment petit à petit, il arrive à un état gazeux. Vous allez dire du paix au gaz, mais un état gazeux, c'est-à-dire un état où il n'est plus visible, mais où il est d'autant plus puissant.
Et c'est Tonin Palazzotto qui est votre diable, d'une certaine façon, sur la scène du Théâtre du Rond-Point.
Je suis l'incompréhension compréhensive. Le règne millénaire de la suie de pétrole, de la puanteur, de l'argent et de l'ordure. Le non-être au-dessus de tout. Le non-être par-dessus tout. Je me diffuse. Comme du gaz pulvérisé dans l'air, non pas moins, mais plus puissant, à mesure que je me répands aux alentours.
Excusez-moi, tout cela est fascinant. Vous n'auriez jamais envisagé d'être le produit de conflits névrotiques ?
Mon refus de toute analyse est total. Je préserve ma malignité dans sa fraîcheur d'origine. Approche, Monica. Plus près, je suis né de moi-même.
Alors, n'y voyez pas une insulte, hein, mais ce serait pas un peu la folie des grandeurs ?
Des grandeurs ? Elle est bonne.
Ma chère dame, vous ne pouvez pas imaginer l'ordre de grandeur de ce qui va se produire. Je sens d'énormes possibilités dans le monde moderne.
Voilà, énorme possibilité, et c'est un euphémisme. Alors évidemment, quand la catastrophe éclate, quand chacun des personnages se rend compte que l'avènement au pouvoir d'Hitler est là, la question est que faire. Chacun va avoir des attitudes assez différentes. Et nous, spectateurs, Catherine Marnas, on se demande, eh bien, si ça arrivait en France, que ferait-on ? C'est la question évidemment que beaucoup de gens se posent dans la salle, même pendant le spectacle, et peut-être plus encore lorsqu'ils sortent du théâtre. Est-ce que vous avez l'antidote ? Catherine Morales. Oh. L'antidote contre le diable, l'antidote contre le mal, l'antidote contre, contre ce poison fasciste qui continue de
menacer. J'en parlais un petit peu précédemment, c'est-à-dire revenir à des valeurs fondamentales et se dire qu'est-ce qu'on défend et du coup, comment on fait l'union autour de ça ? Parce que sinon, on va continuer à se laisser manger tout cru.
Merci beaucoup, Catherine Marnas. Bright Room Cold Day de Tony Kushner à l'affiche du Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 5 décembre. Le 8, vous serez à Thionville, au CDN Grand Est. Les 14 et 15 à la Comédie de Caen. Les 4 et 6 mai 2022 au Théâtre Olympia de Tours. Et puis, je précise qu'il y a aussi votre nouvelle création à Bordeaux au début de l'année, à partir du 11 janvier. Vous nous donnez le titre ?
Alors, ce sont les souvenirs d'Herculine Barbin que j'ai sous-titré « Archéologie d'une révolution ». C'est donc les souvenirs d'une hermaphrodite et que c'est un texte qui a été découvert par Michel Foucault.
Voilà, Herculine Barbin, Archéologie d'une révolution du 11 au 22 janvier au TNBA à Bordeaux. Merci encore. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. Demain, nous serons au SLPJ, le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, dans la banlieue est de Paris. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. RFI, la